Vous écoutez On lit pour vous.
L'adieu au papier. Retour dans le futur? Point d'interrogation. Un texte signé Caroline Monpetit, publié dans Le Devoir du 20 avril 2026. Après avoir, pendant des siècles, rythmé nos vies et notre rapport aux nouvelles du monde, le journal papier tire tranquillement sa révérence dans nos maisons. Il se retire sur la pointe des pieds, cédant la place au vacarme de l'ère numérique et à son instantanéité. Guillaume Pinson, professeur de littérature à l'Université Laval, s'est penché sur l'histoire du journal papier francophone et y a trouvé des bouleversements qui ont ressemblé, en leur temps, à la révolution numérique actuelle. Il a développé ses parallèles entre deux révolutions, celle du journal papier omniprésent à partir du XXe siècle et celle d'aujourd'hui dans « L'adieu au journal » qui paraît aux éditions CNRS. Fatigue mentale et besoin de couper les liens avec l'actualité n'étaient pas étrangers aux consommateurs de journaux des siècles derniers. En 1884, le chroniqueur Octave Mirbeau, qui signait des chroniques dans Le Gaulois, raconte les bienfaits d'un récent, citation, « stage de déconnexion », fin de citation, du flux des informations sur le monde. Citation, « Les hommes et les femmes du siècle dernier ont été complètement bouleversés quand ils ont vu le journal arriver », explique Guillaume Pinson en entrevue. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Pour eux, le monde a changé en quelques décennies. Le monde s'est transformé profondément. Fin de citation. La distribution massive du journal papier a, en son temps, rythmé le quotidien. Citation, il a imposé le rythme de la nouvelle, mais aussi le rythme de l'attention. Fin de citation. À l'inverse, l'autoroute numérique semble abolir le temps d'attente. Citation, elle abolit l'avenir, va jusqu'à dire Guillaume Pinson. Fin de citation. Le chercheur trace aussi un parallèle entre le fabuleux réseau de distribution des journaux papier de l'époque et l'autoroute numérique de l'information sur laquelle on navigue aujourd'hui. Au-delà des trains et des bateaux, puis des camions et des voitures, citation, qui se chargeaient tous les jours de lourds ballots de papier et les transportaient parfois à l'échelle du globe, fin de citation, certains chemins de fer et certaines lignes navales imprimaient leurs propres journaux gratuits à distribuer à bord. Guillaume Pinson s'intéresse particulièrement au réseau international des journaux francophones, sur lequel il a fait des révélations étonnantes. Ainsi, c'est à New York et non au Québec que se publiait, un temps, le journal francophone le plus important en Amérique au milieu du 19e siècle. Des journaux francophones en papier s'imprimaient par ailleurs à Pondichéry, en Inde, à la Louisiane, en passant par la Moldavie. Aujourd'hui, dans le contexte de l'autoroute numérique, où on passe en un clic d'un contenu en français à un contenu dans une autre langue et vice-versa, la langue française ne lui semble pas menacée outre mesure. Citation, les outils de traduction sont tellement performants, dit-il. On peut imaginer un système, finalement, où on va sur des sites étrangers ou des réseaux étrangers, mais où les contenus sont traduits instantanément. Peut-être qu'on va faire une espèce de retour à des langues maternelles. Fin de citation. Réaction et motive. Mais l'approche de Pinson est peut-être surtout originale parce qu'elle aborde la consommation d'informations par le biais de l'émotion. Ainsi, c'est en exploitant les émotions des lecteurs, dit-il, que les journaux se sont transformés au XXe siècle avec l'avènement de la chronique, du reportage de terrain et des faits divers. Citation, à partir de 1900, c'est vraiment une révolution culturelle complète, dit-il. Que ce soit à Montréal ou à Paris, tout le monde a accès à un journal et c'est ça qui a fondamentalement changé, là. C'est sûr qu'il y avait des gazettes au 18e siècle, mais pas dans une ampleur comme celle-là. il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité que tout le monde soit un peu comme synchronisé culturellement sur un rendez-vous quotidien. Fin de citation. Il avance d'ailleurs que le malaise ressenti envers l'affluence des informations numériques est entre autres lié à notre difficulté à réguler nos émotions face à l'intensité des stimuli. Citation. Depuis 20 ans, on est dans une sorte de révolution qui présente des analogies, des éléments comparatifs. On est de nouveau plongé dans une transformation temporelle d'un flux encore plus frénétique. D'une certaine manière, on revit un peu ce qui a déjà été vécu, dit-il. Une sorte de désordre émotionnel et temporel. Fin de citation. Autre citation. C'est comme si aujourd'hui, on était un peu déboussolé sur le plan des émotions. On ne sait pas gérer cette multiplication du flux, cet entrelacement de régimes affectifs contradictoires. Les réseaux sociaux provoquent beaucoup de réactions en direct. Il y a une polarisation accompagnant ce support qui permet une espèce de réaction immédiate à ce qu'on voit. Fin de citation. Comme on le ressent devant nos écrans, le journal papier permettait d'éprouver de la colère tout en demeurant dans le calme de sa maison privée. Citation. Aujourd'hui, on fait appel à une intelligence cumulative plutôt qu'à une intelligence séquentielle, dit-il. Fin de citation. Dans le cadre de ce genre de transformation, les frontières entre vie publique et vie privée se brouillent. L'âge d'or des journées de papier a d'ailleurs coïncidé avec l'apparition des journaux intimes. Citation. C'est paradoxal de nous rapprocher d'une certaine manière, mais en même temps de nous couper les uns les autres. Fin de citation. Guillaume Pinson pense aussi que de nouvelles formes journalistiques vont émerger du chaos présent. Citation. Il y a de la place pour la création, pour de nouvelles idées, des nouvelles manières de faire. C'est ça qui est en train d'être expérimenté aujourd'hui. Fin de citation. Référence au livre objet de cette chronique. Le titre, L'adieu au journal, Guillaume Pinson, CNRS Édition, Paris 2026, 234 pages. Et c'est la fin de ce texte titré « L'adieu au journal papier, retour dans le futur, point d'interrogation », texte signé Caroline Monpetit, publié dans Le Devoir du 20 avril 2026.
Quand les tornades menacent, ces scientifiques sortent leurs crayons de couleur. Un texte de Judson Jones, publié le 8 juin 2026, dans Le Devoir. Dans les années 1940, des météorologues utilisaient des cartes et des crayons pour faire leurs prévisions. Tout a commencé sur un coup de tête et sous une certaine pression de leurs supérieurs. Deux météorologues tentaient, en 1948, de faire ce que personne n'avait encore réussi à faire, soit prévoir avec justesse une tornade. 5 jours plus tôt, une tornade avait détruit une base militaire en Oklahoma et l'armée de l'air voulait à tout prix éviter qu'un tel scénario se répète. À l'aide de cartes papier et de crayons, les deux hommes ont minutieusement relevé les conditions atmosphériques en prenant soin de noter les endroits où elles risquaient de se combiner pour former le dangereux cocktail susceptible de donner naissance à une autre tornade. 3/4 siècle plus tard, à environ 40 kilomètres de l'endroit où se trouvait cette base, les scientifiques du Storm Prediction Center, un service du National Weather Service, sont à pied d'œuvre. Grâce à l'intelligence artificielle, aux radars et aux satellites, ils disposent aujourd'hui de technologies modernes dont leurs prédécesseurs n'auraient pu que rêver pour suivre les tempêtes en temps réel. Mais une chose n'a jamais changé. Ils ne jurent toujours que par les cartes papier et les crayons. Un météorologue norvégien a dit, il y a des décennies, qu'analyser une carte météo à la main permet de sentir le temps qu'il fait dans ses veines. A raconté Bill Bunting, directeur adjoint du Centre de prévision. Il se penchait au-dessus d'une pile de cartes papier au moment où une veille de tornade était diffusée pour Chicago. On l'intègre simplement d'une autre manière. Plus de 3 douzaines de spécialistes des phénomènes météorologiques violents travaillent par quart, toute l'année, au centre de prévision pour prévoir les orages, la grêle, les vents destructeurs et les conditions propices aux feux de forêt. John Hart, prévisionniste principal, décrit le travail de l'unité comme une spécialité à part dans l'appareil météorologique fédéral. Alors que plus de 100 bureaux locaux du National Weather Service se concentrent chacun sur leur territoire, les prévisionnistes du centre suivent les phénomènes menaçants au fil de leur progression à l'échelle de tout le pays. Chaque quart obéit à un rythme précis et à un sentiment d'urgence professionnelle. L'horloge tourne jusqu'au moment où la prévision doit être diffusée. Pour prendre leurs repères, les prévisionnistes commencent souvent par tracer à la main l'état actuel de l'atmosphère, comme le faisaient leurs prédécesseurs en 1948. Ils impriment une grande carte des États-Unis. On y reconnaît les contours des côtes et des frontières des États, mais elle est aussi couverte de barbules de vent, de petits points d'où partent des lignes. Ces lignes indiquent la direction d'où souffle le vent. Les triangles qui y sont attachés en précisent la vitesse. Des nombres regroupés près des points indiquent la pression au sol, la température et le point de rosée. Avec la concentration d'un enfant devant un dessin à relier par des points, les prévisionnistes se mettent à dessiner. Ils repèrent les températures similaires et tracent entre elles des lignes appelées isothermes. Chacun a son style. Certains dessinent des intervalles de 2, de 5 ou de 10 degrés. Les zones plus chaudes ou plus froides sont coloriées en bleu, en violet, en orange ou en jaune. Ils relient des relevés de pression pour faire apparaître des gradients, révélant ainsi l'emplacement des zones de basse et de haute pression qui entraînent les vents. Ils cartographient ensuite l'humidité en utilisant le vert ou le bleu pour l'air humide, le jaune ou le brun pour l'air sec. Pour qu'un orage violent se forme, du type capable de produire une tornade, mais aussi de la grêle et de fortes pluies, ces ingrédients doivent être forcés de se mélanger le plus souvent à la collision de masses d'air. C'est là qu'apparaissent les fronts, les lignes bleues ornées de triangles et les lignes rouges ornées de demi-cercles qui marque la bordure avancée d'une masse d'air. Il y a aussi la ligne sèche, une ligne noire en pointillé, qui indique la séparation entre l'air sec et l'air chaud et humide qui alimente une tornade. Ces frontières sont les repères que les prévisionnistes cherchent à établir avant de se tourner vers leurs écrans. Des débris emplissaient l'air lorsque l'entonnoir s'est déplacé vers la limite nord-est de la base aérienne de Tinker, en Oklahoma, le 20 mars 1948. La tornade a frappé à 22 heures, faisant voler en éclats les vitres de la tour de contrôle de la piste et blessant les personnes qui s'y trouvaient. Ce ne fut pas une bonne soirée pour le commandant de la base, le major général Fred S. Borum. Dans les jours qui ont suivi, le major Ernest J. Farbush et le capitaine Robert C. Miller ont analysé les cartes de surface et les cartes d'altitude du jour de la tornade à la recherche des conditions qui avaient mené à la catastrophe. Le matin du 25 mars, selon un manuscrit que Miller a rédigé des années plus tard, ils ont observé sur leur carte une configuration presque identique. Borum est arrivé à la station météorologique et a posé une question. « Avez-vous l'intention d'émettre une prévision de tornade pour Tinker ?» Ils ont tergiversé, se rabattant sur une alerte aux orages violents. Mais au fil de l'après-midi, leur écran radar, récupéré de bombardiers de la Seconde Guerre mondiale, a commencé à montrer des orages à 100 km au nord-ouest. À 14h30, une ligne d'orage se dirigeait vers la base. Borum, lui aussi frappé par les similitudes entre les deux journées, leur a de nouveau demandé s'ils allaient émettre une prévision de tornade. Les deux hommes ont hésité, toujours incertains que cela se produirait, puis ont rédigé le message et l'ont transmis aux opérations de la base à 14h50. Peu après 17h, les orages sont passés près de l'aéroport municipal Will Rogers, où l'on n'a signalé qu'un faible orage et de la grêle de la taille de petits pois. Convaincu que la prévision avait échoué, Miller est rentré chez lui, abattu. Il se trouvait dans sa maison lorsqu'un bulletin radio a interrompu la programmation pour annoncer la deuxième tornade. Il est retourné à la base, où il a trouvé un paysage de désolation et un Farbush jubilant. À 18 heures, deux orages s'étaient rejoints. Un nuage en forme de cône s'est bombé vers le sol. Des observateurs ont vu l'aile d'un bombardier B-29 de la Seconde Guerre mondiale, remisé depuis la fin du conflit, s'élever dans les airs avant que l'entonnoir se désintègre. Le succès qu'ils ont connu ce jour-là en reconnaissant cette configuration a propulsé le système moderne de prévision des orages violents. Aujourd'hui, les bureaux du Storm Prediction Center débordent d'écrans d'ordinateurs. Cette équipe, dit John Hart, constitue essentiellement un ensemble humain fort d'un siècle d'expérience qui tente d'arriver rapidement à la bonne réponse. Et à côté de chaque bureau, un espace vide est réservé au dessin des cartes. Les nouveaux venus au centre apprennent cette tradition analogique et reçoivent une boîte de crayons. John Hart, en vidant la sienne sur la table, explique que son étui, rafistolé avec du ruban d'emballage, avait appartenu à un prédécesseur, Jack Hales, dont la fille l'avait utilisé à l'école avant qu'il l'apporte au travail en 1974. De nos jours, le Storm Prediction Center peut prévoir jusqu'à 8 jours à l'avance la possibilité d'orages violents, et ses prévisions gagnent en précision et en détail à mesure que la date approche. Le jour où des phénomènes violents sont attendus, le centre de prévision diffuse ce qu'il appelle des perspectives d'orages violents qui indiquent à la population, sur le terrain, la probabilité et, nouveauté en 2026, l'intensité possible des conditions météorologiques auxquelles elle pourrait faire face. Puis, vient le temps d'attendre. et d'observer. C'était quand les tornades menacent, ces scientifiques sortent leur crayon de couleur, un texte de Judson Jones, publié le 8 juin 2026 dans Le Devoir.
As-tu entendu dire? La circulation des nouvelles. Une rubrique de Ramona E. Blinn parue le 4 juin 2026 dans le courrier de la Nouvelle-Écosse. Extra, extra! Lisez tout à ce sujet. Vous avez déjà regardé un film ou une série télévisée où un personnage crieur de journaux lançait cet appel dans les rues de son village? Eh bien, vous voici maintenant en train de recevoir un texte supplémentaire dans le courrier de la Nouvelle-Écosse, livré jusqu'à vous via la poste ou Internet. Aujourd'hui, dans cette chronique, plongeons dans l'évolution de la distribution des nouvelles à l'écrit, ainsi que le rôle d'un journal pour faire connaître le monde, du local au transnational. Quoi de neuf? Fort probablement, dans votre région, vous entendez des gens échanger des nouvelles locales. Peut-être participez-vous aussi à ces échanges. Qu'il s'agisse de la météo, du prix de l'essence ou d'un événement surprenant qui s'est produit auprès de vous, les nouvelles peuvent servir de point de conversation et de contacts sociaux. Ce sujet fascinant des nouvelles locales est ressorti lorsque je menais mes recherches dans le cadre de la maîtrise en culture et espaces francophones à l'Université Sainte-Anne. Mon projet cherchait d'abord à voir comment des personnes acadiennes de parents hauts, Clare, et de parents bas, Argyle, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, parle de la santé au quotidien. Par le terme « santé », j'ai donné la liberté d'interprétation aux personnes participant au projet. C'est grâce aux conversations avec ces gens que j'ai pu observer comment l'état d'être des gens devient un thème récurrent dans les interactions routinières communautaires. Cela étant dit, la coutume ne date pas d'hier. Parler de l'état d'être des gens existe depuis belle lurette. Tout comme les nouvelles locales où les petites nouvelles sont circulées de vive voix, l'on témoigne également de ce phénomène à l'écrit. En parcourant les collections de documents numérisés aux archives de la Nouvelle-Écosse, je suis tombé sur des trésors historiques. Il s'agit de bijoux cachés dans les anciens numéros de notre courrier, autrefois nommé le petit courrier du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Mais quel trésor, précisément? Des traces écrites des détails de la vie communautaire. L'univers du petit courrier. J'ai surtout remarqué les mentions sur l'état d'être des gens dans les petites nouvelles locales. Pourtant, divers thèmes sont évoqués. Prenons l'exemple du tout premier numéro de notre journal. Le petit courrier est paru pendant la Grande Dépression, le 10 février 1937. En 4 pages, les détails locaux proviennent de villages qui composent les régions de Par-en-Haut et de Par-en-Bas. L'on écrit à l'égard de visites familiales, de déménagements, de fêtes, de jeux de cartes, de travaux aux fermes et aux cales sèches, de météo, puis de présence aux enterrements, entre autres. Au-delà de l'actualité qui aurait circulé par carte postale ou par lettre manuscrite, les personnes abonnées au journal pouvaient aussi profiter des renseignements venant d'ailleurs. Commençant par le deuxième numéro, étalé sur 8 pages, l'on pouvait se tenir à jour sur des informations provinciales et canadiennes. L'on parle par exemple de Yarmouth, d'Annapolis Royal, d'Halifax, d'Ottawa et du Nouveau-Brunswick. Qui plus est, à compter du 17 février 1937, le petit courrier partageait déjà des manchettes internationales. Dans le numéro en question, ce genre de nouvelles proviennent de la Cité Vaticane, Italie, de Manille, Philippines et du Caire, Égypte. L'on rapporte surtout des nouveautés à l'égard de la religion catholique. Plus précisément, l'on écrit au sujet d'une messe pontificale et de la conversion d'une Japonaise à la foi catholique. Il y figure aussi un atterrissement des Lindbergh, célèbre pionnier de l'aviation. Le trajet des nouvelles internationales jusqu'aux lectrices et lecteurs du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse aurait dépendu des abonnements de l'éditeur du petit courrier. C'est à partir d'accords entre les agences de presse canadiennes et internationales qu'est rendu possible l'échange des informations d'actualité dans les journaux. Plus précisément, la presse canadienne aurait bénéficié des services de l'agence Havas, plus tard l'agence France Presse. Cette dernière a su créer un réseau ou fournir des nouvelles de presse, rassemblant et distribuant alors de l'information sur le plan mondial. Malgré l'opposition des journaux, l'accès aux nouvelles diffusées à la radio devient populaire au Canada vers le milieu des années 1930 et de plus en plus normalisé par la suite, précise la Fondation canadienne des communications. Un tel accès grandissant aux radios aurait permis de recevoir et de transmettre les nouvelles issues de divers endroits dans le monde dans de nouveaux formats, transformant ainsi la consommation des informations vers le sonore plutôt que le textuel. Icette est partout. Du crieur de journaux jusqu'à nos jours, le partage des nouvelles écrites se réalise maintenant davantage par le biais d'écrans et de techniques multimédia que de papier. Voilà une réalité que témoignait le théoricien canadien des médias Marshall McLuhan, connu pour son affirmation « Le médium est le message », laissant entendre que la technologie et son format de présentation influent sur notre perception du contenu. Bref, les moyens pour accéder aux nouvelles évoluent. Les publications sur les réseaux sociaux deviennent à leur tour des espaces où transmettre ce qu'il y a de neuf. Les nouvelles, de partout dans le monde, peuvent traverser les frontières géographiques à grande vitesse, donnant un accès immédiat. Une telle ouverture globale comporte des bénéfices et des désavantages. D'une part, nous avons la possibilité de rester au courant de ce qui se passe de jour en jour, puis de diversifier nos lectures sur une gamme d'enjeux. D'autre part, les réseaux peuvent nécessiter un filtrage et une vérification d'informations, puis nous pouvons devenir surchargés par le volume. Dans mon projet de mémoire, « Parler la santé », j'ai vu que la santé est de nature personnelle, mais elle est aussi sociale. Elle se construit en communauté, tissée à même les récits que nous construisons nous-mêmes à partir des interprétations qui émanent du milieu auquel nous appartenons. D'un sens similaire, les nouvelles locales et internationales se rencontrent et agissent comme des outils à travers lesquels nous pouvons interpréter le monde. En quoi l'interaction entre les nouvelles locales et transnationales que vous consommez influence-t-elle les récits que vous racontez? C'était « As-tu entendu dire? » La circulation des nouvelles. Une rubrique de Ramona E. Blin, parue le 4 juin 2026 dans le courrier de la Nouvelle-Écosse.